Alors on chante, qu'est-ce qu'on attend? On n'a pas de terre de rechange, on n'a plus le temps de faire semblant. Alors on se lance, on laisse plus faire. On n'aura pas de deuxième chance, pas de plan B, pas d'autre terre.
Calade,
ma radio.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ce soir sur Calade pour une nouvelle émission Alors on change, le rendez-vous mensuel d'Alternatiba Villefranche consacré au climat et au développement d'alternatives locales.
Calade
100.9.
Donc ici normalement au sud, donc l'étang devrait disparaître puisqu'il y aurait un canal ici qui rejoindrait le port principal. Et puis derrière, la rivière principale derrière le restaurant, qui serait plus large et qui détruirait donc la rive qui est là-bas. Voilà. Ici, il y aurait cette île avec le restaurant au milieu. Donc, on a parlé du pont piétonnier au sud et au nord, l'arrivée principale des bateaux avec la grande arrivée, le grand canal. Voilà. Donc, le port serait relativement, enfin, il serait immense. Hein, ce serait plusieurs dizaines d'hectares. Pomeroy a parlé de 350 anneaux pour les bateaux, ce qui est présenté comme l'un des plus grands, voire le plus grand port fluvial de France, avec des milliers de personnes régulièrement qui viendraient stationner là, pour le port et pour le lac du Colombier. On aurait cet effet-là. Un effet d'engorgement du site avec les voitures, la ville serait pas toujours accessible, et puis des pollutions diverses, ça c'est le phénomène des grandes concentrations. Et je pense que la nature n'est pas, enfin la préservation de la nature n'est pas compatible avec les grandes concentrations humaines. Il faut être très clair là-dessus. Voilà, c'est une contradiction majeure. Après, on peut chercher effectivement à regarder s'il y a des espèces intéressantes, mais voilà, la première contradiction c'est celle-là.
Olivier Miquel de la Ligue de protection des oiseaux vient de nous emmener à Ans, sur le site de Bordelan, au bord de l'étang des Communaux. C'est en effet ici que devrait être implanté le port de plaisance imaginé par Daniel Pommeret, le maire d'Ans, et conduit par la Serle, société d'équipement du Rhône et de Lyon. Un projet pharaonique que vont nous présenter nos invités, Anthony Chan, administrateur et pilote du réseau juridique de France Nature Environnement Rhône. Bonsoir Anthony.
Bonsoir Monique.
Et Denis Verchère, président de la Ligue de protection des oiseaux du Rhône. Bonsoir Denis.
Bonsoir Monique.
Et avec nous également Bernard d'Alternatiba, investi dès le départ dans le suivi du projet et qui nous scie une belle chronique Calade verte. Mais avant de vous donner la parole, il faut citer les membres du collectif qui s'est monté en observation et en critique de ce projet. 6 associations environnementales se sont réunies il y a presque un an à l'initiative d'Alternatiba, elle-même alertée par la LPO du Rhône. Donc, dans ce collectif, la LPO et FNE déjà citées, mais aussi le GNSA, Groupe National de Surveillance des Arbres, Arthropologia et Nous Voulons des Coquelicots. Ce collectif se pose et pose aux opérateurs du projet des questions cruciales. Quelle est la justification économique d'un tel projet? Quel est son point de rentabilité? Quelle est la justification environnementale sur un espace de dizaines d'hectares aujourd'hui rendu à la nature? Quel est l'impact environnemental et climatique de cette artificialisation? Et enfin, n'y aurait-il pas mieux à faire?
Là, on est au nord du restaurant du Colombier, face à une belle roselière qui a mis plusieurs dizaines d'années à se constituer, qui fait à peu près environ 60 mètres de long et peut-être 10 mètres de large. Et cette partie-là serait impactée par le creusement de la rive, en grande partie. Hein. Donc elle disparaîtrait peut-être pour moitié dans le projet du port fluvial. Et sur la rive intéressante, là, il y a des peupliers noirs qui sont centenaires. Ces grands peupliers-là, il y en aurait bien facilement la moitié qui disparaîtrait à cause de l'ouverture du canal.
Avec cette explication sur site d'Olivier Miquel, on comprend déjà que le futur port serait destructeur d'espaces naturels. Anthony Chan, pouvez-vous nous présenter le projet du port de Plaisance et ses aménagements annexes ?
Alors oui, le projet du port de Plaisance est un projet très ancien qui date, il me semble, enfin, après le, Denis enfin, me corrigera, des années 80 et donc qui a été longtemps repoussé. Et qui a beaucoup avancé ces derniers temps, avec notamment un premier avis de l'autorité environnementale, qui démontre qu'il y a des enjeux environnementaux. Donc c'est un très grand port de plaisance, je ne sais plus malheureusement le nombre d'hectares exact, et qui justement regroupe des ports le port de plaisance et la construction de logements. Il me semble qu'il y a une part de logements sociaux et une part de logements classiques. Et c'était une ancienne friche industrielle pour repréciser, mais qu'on a vu en septembre dernier où la nature a complètement repris ses droits. Et il y a des espèces qui ont réinvesti, cet espace naturel, notamment une espèce qui est, enfin, je suis pas naturaliste, donc je suis juriste de base, mais le cuivré des marais qui est présente sur ce site. Et du coup, sur ce site, ça regroupe différents enjeux. Donc, c'est une autorisation environnementale unique. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs enjeux. Il y a un enjeu sur l'eau, donc avec une déclaration au titre de la loi sur l'eau. Donc, ça veut dire qu'il y aura au niveau de l'étang, il va y avoir des fouilles archéologiques. Et donc, on va devoir vider l'étang. Et donc, ça peut avoir un impact. Les impacts sur le milieu en tant que tel, donc avec l'autorisation environnementale. Et une dérogation, normalement, espèces protégées, puisque possiblement des espèces protégées pourront être atteintes, avec notamment ce qu'on appelle la séquence RC. Donc il faudra éviter, réduire et compenser si on détruit ces espèces.
Alors ce qu'on n'a pas dit, c'est que dans ce projet pharaonique, il y a aussi une zone industrielle et artisanale. Il y a un port à sec avec 150 places de bateaux. En réparation. Il y a 2000 places de parking, donc c'est un projet qui va artificialiser une grande quantité d'hectares.
Oui, tout à fait. C'est ça qui va... Donc ça va artificialiser un grand nombre d'hectares et donc avoir un impact très conséquent donc sur ce milieu qui est complètement naturel. À l'heure actuelle, enfin, il y a des espaces industrialisés autour, mais ce qui va impacter, c'est complètement naturel. Donc comme l'explique Olivier, il y a justement cet étang, il y a, je ne sais plus, une espèce de fleur très intéressante, je ne sais plus le nom.
On va y revenir.
Et du coup, un impact très conséquent pour la biodiversité et les milieux naturels.
Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce projet a un budget colossal. Est-ce que vous avez les chiffres en tête ?
Je ne me souviens plus exactement du budget en tête. Je crois qu'on est sur des millions.
Il me semble que c'est 40 millions 40 à peu millions, près, ouais. Estimé aujourd'hui le projet, dont 7,5 de subventions à peu près.
Et est-ce que vous savez qui sont les subventionneurs ? D'où vient l'argent ?
Alors on a la CERL, le département qui va subventionner. La métropole ne fait pas partie du projet.
Elle s'est désengagée du projet. Financièrement.
C'est en fait les nouveaux élus qui se sont désengagés. Elle était engagée initialement.
Oui, c'est ça.
Et les nouveaux élus à la métropole se sont désengagés du projet, oui, tout à fait.
Et je ne sais plus s'il y a la région, il me semble qu'il y a la région aussi qui subventionne le projet.
Et surtout un énorme budget pour la communauté de communes Pierre-Doré. Et la ville de Villefranche est engagée aussi, puisqu'il y a eu un projet de co-aménagement de tous les espaces de bord de Saône entre Villefranche et Anse. Et donc c'est un projet très très cher. Et voilà, parmi nos questions, c'est est-ce qu'on n'aurait pas mieux à faire avec cet argent ? Denis Verchère, le collectif d'associations a déjà rencontré à plusieurs reprises le maire d'Anse, M. Pommeret, ainsi que la Serle, pour poser des questions et manifester son opposition au projet en l'état. Des travaux ont déjà été réalisés et vos associations sont-elles déjà intervenues ?
Alors oui, bien sûr, nous sommes déjà intervenus. Nous avons rencontré par deux fois le porteur du projet à notre demande. Nous avons échangé quelques courriers. Nous, à l'LPO, ça fait à peu près 4-5 ans qu'on s'intéresse à ce projet. Et dès le départ, je dirais, on s'est aperçu du manque de transparence sur ce projet. Quand on cherchait à comprendre ce qu'ils voulaient faire, où ils en étaient, quels étaient les impacts, qu'est-ce qu'il y avait comme étude de fait ou à faire, en fait, on ne trouvait rien du tout. C'était vraiment l'omerta complète. Donc du coup, évidemment, forcément, on avait des questionnements par rapport à la taille du projet et tout ça. Donc on a pris contact avec le porteur du projet. Alors pour répondre aussi à votre question sur les travaux, justement en 2020, donc, ont été réalisés des travaux déjà préliminaires. Ça consistait à aménager et à remblayer une plateforme pour en fait la sortir de la zone inondable. Alors c'est important, c'est intéressant d'en parler. Parce que pour pouvoir faire ces travaux, donc ils ont bénéficié d'un arrêté préfectoral qui incluait un certain nombre de mesures de compensation. Ces mesures de compensation n'ont pas été mises en œuvre. Et d'ailleurs, le porteur du projet aujourd'hui fait l'objet d'une mise en demeure. Une mise en demeure préfectorale, pardon, qui date de février dernier, là, avec 14 non-conformités. Donc je dirais déjà, cet élément dénote l'importance que le porteur du projet met sur la question de l'environnement et de la biodiversité. Alors évidemment, on a plein de questionnements par rapport à tout ça. On a depuis eu quelques éléments, mais il faut dire que quand même les études qu'on a justement sont un peu questionnables. Elles sont souvent datées de 8 à 10 ans, ce qui fait quand même très long, toutes les études d'hydrologie, de biodiversité. Elles ne prennent pas en compte les projets, les autres projets qu'il peut y avoir aux alentours, comme l'extension de la gravière. Donc il n'y a pas de prise en compte des effets cumulés. Il n'y a aucune étude de marché aujourd'hui. Il y a une étude de marché qui date de 2008, mais qui en plus ne montre même pas la justification du projet. Donc si vous voulez, pour moi, il n'y a pas d'étude de marché. Voilà. Alors là, on a quand même deux avis administratifs qui ont été rendus, qui sont intéressants et qui apportent d'autres questionnements, justement. Donc il y a un avis de l'autorité environnementale en avril 2021 qui exprime clairement que le projet n'est pas abouti, qu'il y a des lacunes majeures. Il mentionne notamment l'omission de la trame verte et bleue, existante, la trame verte et bleue, c'est les corridors écologiques, si vous voulez. Une méconnaissance du plan de prévention des inondations, un état initial de la biodiversité qui est totalement incomplet, un manque d'évaluation des émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Le projet à l'époque n'était pas en accord avec le SCOT non plus, et les mesures justement d'éviter, réduire, compenser, dont parlait Anthony, a été jugée incomplète. Et puis on a aussi un avis de l'OFB, donc qui lui est plus récent, qui est de février 2023, et qui met aussi en évidence un certain nombre de lacunes sur le projet, des erreurs dans l'identification des zones humides et des cours d'eau existants, une cartographie de la faune existante qui est non représentative et même surprenante. Il y a des espèces qui aujourd'hui sont connues dans ce genre de milieu et sont connues en bord de Saône et qui ne sont pas répertoriées sur le projet. Donc c'est quand même très surprenant. C'est un projet clairement à l'avis de l'OFB, l'Office français de la biodiversité, insuffisamment détaillé pour pouvoir bien mesurer son impact, notamment au niveau de l'aménagement des berges, des cours d'eau, de la zone humide, et même encore aussi au niveau des corridors écologiques. Voilà. Donc ils mettent vraiment en évidence un manque de pertinence et des incohérences dans les mesures qui sont proposées pour compenser tout ça.
l'univers cher, ce qui a alerté les associations du collectif, ce sont les menaces climatiques et environnementales générées par ce projet. Pouvez-vous nous les détailler ?
Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, très clairement, en l'état tel qu'il est présenté le projet, c'est un projet climaticide et écocide. Hein. Olivier Miquel a très bien expliqué au début de l'émission. Dans la zone prévue, on a des plans d'eau, on a des prairies sèches, on a des prairies humides, on a une zone forestière. On a des arbres centenaires, une roselière, on a des espèces florales remarquables, on a le castor qui s'est installé. Et donc toute la faune liée au milieu humide ou boisé. On a quelques espèces aussi à fort enjeu environnemental comme, et à fort enjeu de conservation, comme le crapaud calamite, le bruant des roseaux, le guêpier d'Europe. On a bien évidemment toute la panoplie des oiseaux d'eau, beaucoup de chauves-souris, et puis sans doute une zone de reproduction du brochet. Donc voilà, toute cette faune, toute cette flore sera forcément impactée par le projet. On connaît aujourd'hui l'importance des zones humides pour la biodiversité. Hein. Ce sont des zones extraordinaires pour l'ensemble des espèces qui sont présentes. Aujourd'hui, on a certes une zone qui est déjà un petit peu dégradée, mais qui est potentiellement extrêmement riche, quoi. Voilà. C'est un secteur naturel, en fait, dans une zone qui est quand même très urbanisée tout autour, mais avec quand même déjà un corridor écologique vers la zone Natura 2000 du Val de Saône, qui est à 11 km. C'est une zone qui a été en partie déjà renaturée, naturellement, et qu'il conviendrait, en fait, aujourd'hui, de renaturer encore plus au regard des enjeux de biodiversité et du climat de nos jours, hein, tout simplement. Voilà. D'ailleurs, on peut signaler que le site faisait partie d'un espace naturel sensible, hein, qui a été redéfini, redécoupé pour favoriser le projet, et qu'il impacte aussi une zone ZNIEF, hein, zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, définie par la loi française de type 1, c'est-à-dire c'est une zone, c'est les zones les plus remarquables, quoi. Voilà, qu'il convient de préserver aujourd'hui par rapport aux enjeux. L'étude d'impact, comme je disais tout à l'heure, elle date de 8-10 ans et elle cherche clairement à minimiser les impacts. On y parle beaucoup des espèces invasives. C'est un dossier de ce côté-là qui est très détaillé, exhaustif, alors qu'il ne l'est pas du tout pour les espèces protégées. On présente la zone comme une zone déjà artificialisée et pauvre en biodiversité, ce qui en fait est très très contestable, quoi. Voilà. Donc il y a beaucoup d'enjeux. Il y a beaucoup de béton qui va être déversé. Quid de du fameux ZAN, hein, zéro artificialisation nette, auquel la France s'est engagée pour 2050, sachant que déjà l'objectif, c'est sur la décennie 2020-2030, c'est de réduire de moitié par rapport à ce qui était fait en 2010-2020. Là, clairement, on n'est pas du tout dans ces objectifs-là. Donc ça, c'est pour tout ce qui concerne la biodiversité. Au niveau du climat, je suis un petit peu moins spécialiste, mais clairement, c'est un projet qui va impacter le climat, qui va avoir un bilan carbone très fort. Aujourd'hui, le projet ne présente même pas de bilan carbone. Voilà, c'est quand on pose la question aux porteurs du projet, la réponse c'est ne vous inquiétez pas, les bateaux ils seront électriques très vite, et puis on va même pas mettre de pompe à essence. Bon, voilà, enfin, je suis un peu sidéré. D'un point de vue hydrologique, très clairement, tout le monde sait qu'on va avoir de moins en moins d'eau, et peut-être aussi potentiellement des crues plus importantes. Ben ça, c'est un aspect qui n'est pas du tout abordé au niveau du projet. Donc clairement, il y a des enjeux climatiques importants.
Alors la dernière réponse de Daniel Pommeret, c'était « si on va faire des pontons flottants ». Donc voilà. C'est comme ça que c'est envisagé uniquement. Et on a posé également la question des algues, puisqu'il y a prolifération des algues en été dans tous les ports et qui pose un vrai problème technique de franchissement. Et c'était une question qui n'avait pas du tout été envisagée.
Ouais, ça fait beaucoup d'interrogations, beaucoup de questionnements, des enjeux qui sont quand même extrêmement important aujourd'hui, hein, quand on connaît aussi le problème du dérèglement climatique, les enjeux de biodiversité. Très clairement, on a deux craintes majeures, je dirais. C'est, pour nous, c'est un projet tel qu'il est conçu aujourd'hui, c'est un projet qui isolera et qui dégradera l'espace naturel existant qui est aujourd'hui fonctionnel, hein, et qui ne peut que s'améliorer. Et puis, c'est un projet qui accentuera le dérèglement climatique, avec la quantité de béton déversé, avec tous les impacts liés à sa taille, qui est gigantesque, en fait.
Anthony Chan, où en est-on dans les étapes de ce projet et que va-t-il se passer dans les mois qui viennent ?
Alors, dans les étapes du projet, donc là, on a eu les différents avis des autorités. Donc, normalement, on aurait dû avoir une enquête publique, là, en mai. Mais elle a été repoussée à début 2025, cette enquête publique, parce qu'il va y avoir ce qu'on appelle une concertation préalable. Une concertation préalable, alors il faut bien différencier l'enquête publique de la concertation préalable. En fait, on prend la température de comment le public se positionne par rapport à ce projet. Donc on va prendre l'avis des habitants de Anse, de Villefranche, de comment ils pensent le projet. Donc c'est une participation citoyenne, donc il faut saisir de cet outil. À la fin de cette... il me semble que Daniel Pomeray ne veut pas faire de réunion publique, ce qui est assez dommage puisque ça permet de prendre les différentes parties et d'expliquer concrètement le projet au public. Ça peut...
Oui, il nous répond que les gens sont suffisamment informés. Or, nous, on a testé autour de nous. Il y a beaucoup de gens, y compris des gens de Anse, qui ne sont absolument pas au courant de ce projet et surtout de l'ampleur du projet.
Tout à fait, en plus. Et en plus, ça permet de bien redéfinir le projet avec les parties prenantes qui expliquent concrètement le projet et les personnes peuvent réagir. Donc ça peut se prendre sous la forme de webinaire, ça peut prendre sous la forme de présentiel. Et donc c'est très intéressant de voir comment les personnes réagissent en direct face à ce projet. Et après, sur la concertation préalable en tant que telle, vous pouvez, s'il n'y a pas de réunion publique malheureusement, vous pouvez tout à fait, il y aura un registre où vous pouvez tout à fait dire ce que vous pensez du projet. En faisant quelques recherches, vous pouvez trouver quelques éléments et vous essayez de forger votre avis et le préciser dans la concertation préalable. À l'issue de ce bilan, il y aura un bilan qui va donner la température globale de ce projet. Et ensuite, alors l'enquête, là, il n'y a pas vraiment de conséquences juridiques et politiques. Par contre, l'enquête publique, il y a un réel enjeu politique, puisque là, ça prend la même forme, donc avec un commissaire enquêteur qui va récupérer les contributions. Donc vous pouvez, les personnes peuvent donner leur avis sur le projet. Et à l'issue, le commissaire enquêteur va donner un avis favorable ou défavorable. Donc si l'avis est défavorable, politiquement, pour le préfet, pour donner l'arrêté de ce projet, ça va être beaucoup plus dur de le faire.
From you. She is leaving when the bell will toll, it'll toll for you. No denying when the log is lost, it can't be true. The darkness from you.
out the darkness from you.
Calade
100.9.
C'était Forgotten Calling de Pierce Faccini. Partons maintenant à quelques kilomètres d'Anse et de son projet de port pour rejoindre Frédéric Pronchéry, maire de Belleville.
Bonjour, nous sommes sur la gravière, ce qu'on appelle la gravière de Belleville-en-Beaujolais, qui est située, on va dire, à un tiers sur Belleville-en-Beaujolais et deux tiers sur Taponnerre. C'est une ancienne carrière, hein, quand je dis ancienne, ça remonte à une quinzaine d'années, en tout cas la renaturation du site, une ancienne carrière d'extraction de sable et gravier de Saône, comme il y en a beaucoup en bord de Saône.
Et donc, quand cette gravière a été finie de gérer industriellement, quels ont été les choix de la mairie de Belleville ?
En fait, au-delà des choix, c'était une obligation qui avait été négociée bien avant mon arrivée ou celle de mon prédécesseur. L'obligation du carrier, c'était de redonner à ce site une valeur environnementale. Donc le carrier, lui, il a un contrat de concession. Quand il arrive au bout, il doit redonner le site dans la version qui a été signée avec les services de l'État notamment. Et bien entendu, avec les services de l'État, il y a tout plein de partenaires autour, la Fédé de pêche, des associations naturalistes, les communes concernées, etc. Nous, quand on arrive, moi j'étais dans l'équipe de Bernard Fierler à l'époque, c'est un site qui est tourné plutôt sur redonner le site au site une dimension très environnementale. Ce qui a été fait, hein, ce qu'on a validé, parce que on a une particularité, c'est que à l'endroit de la Saône, à Belleville-en-Beaujolais, on a un point bas avec. On ne peut pas faire un port. D'ailleurs, ce n'était pas inscrit comme pouvant être un port. Donc l'idée, c'était de dire, on fait des études qui ont été faites d'ailleurs par le carrier. Comment est alimentée cette gravière, hein, qui est due uniquement à la main de l'homme? De quelle manière on peut la rendre le plus possible à la nature.
Et vous, la ville de Belleville, vous avez eu des actions sur le paysage ?
Alors d'abord, on s'est accaparé les études qui montraient finalement que, bien sûr, l'eau de la Saône pénétrait dans cette gravière, d'abord par un pertuis nord et puis ensuite par un pertuis sud. Et on s'est aperçu en fait que la gravière était aussi alimentée par des sources qui venaient du Beaujolais. Des apports d'eau de très très bonne qualité. Donc finalement, ces études ont permis de modeler le paysage différemment, de façon à ne pas colmater ces arrivées d'eau, de manière à en faire une vraie réserve de biodiversité.
Et aujourd'hui, vous pouvez nous détailler un peu les espèces intéressantes qui sont arrivées ?
Alors moi, je ne peux pas vous les détailler sur le bout des doigts. Ce que je constate quand moi je viens, c'est qu'on a par exemple des énormes moules d'eau douce. D'ailleurs, on peut les voir quand on est près de l'eau. Et puis, moi, j'ai surtout des contacts par rapport à tout ça avec la Fédération de pêche du Rhône, qui dit que c'est une vraie réserve en cas de crue, en cas de pollution, et même sûrement en termes de vivier ou de peut-être de frayères, parce que dans cette gravière, on a des hauts fonds et des bas fonds. En plus, on se trouve sur un site un peu particulier, c'est qu'on a une gravière qui est située derrière une laune. Les launes, c'est les bras morts qui sont entre les îles naturelles et la terre ferme. Donc on se retrouve avec un site qui a une gravière, qui est un vrai site environnemental actuellement, une laune, et l'île de Belleville-en-Beaujolais, qui est qu'on appelle l'île du Motio, mais le Motio, c'est une motte de terre, qui appartient à la Frappeno, puisque avant 1995, la Frappeno avait acheté cette île et la Frappeno a supprimé les espèces invasives le plus possible sur cette île et puis essaye d'en faire un vrai îlot de biodiversité. Ils n'essayent pas, c'est un vrai îlot de biodiversité puisque le but c'est de le rendre pas inaccessible mais de le rendre le moins fréquentable possible et de manière à ce que la nature puisse s'exprimer au plus fort d'elle-même. Et donc là-dessus interviennent différents acteurs, hein, je vous les ai cités, la Fédé de pêche, mais c'est aussi toutes les associations environnementales, et c'est aussi le département du Rhône, puisqu'on est ici dans des territoires où le Val de Saône est classé comme un monument historique. On est sur des espaces naturels sensibles qui sont une classification du département du Rhône, et on est sur Natura 2000 qui est un classement européen avec une déclinaison française. Donc on a une situation particulière entre une île qui est propriété de la Frapna, une Laune sur laquelle d'ailleurs on vient de faire des travaux avec le département et, de manière à ce que les poissons puissent frayer, qu'il y ait une biodiversité particulière qui s'installe dans ces Launes parce que c'est des zones de très faible profondeur. Et puis encore avec une langue de terre et derrière cette gravière. Donc on a une situation particulière avec presque 1, 2, 3, 4 milieux différents avant d'arriver à la Saône. Et donc forcément, il y a des choses qui se passent dans ces territoires. Pour le moment, la gravière, on s'attache à ce que le site soit et ouvert au public. D'ailleurs, là, pendant cette interview, il y a 3 pêcheurs juste derrière nous, à moins de 20 mètres, et aux promeneurs, et puis en même temps, une zone de protection de la biodiversité. Donc, il y a, en termes d'accès à cette gravière, il y a des endroits qui sont volontairement laissés très sauvages, de manière à limiter l'accès du public, par exemple aux espaces qui sont au bord de l'eau, qui pourraient servir de nidification pour les oiseaux, pour les insectes, ou même pour la flore, pour ne pas la piétiner. Et puis il y a d'autres endroits qu'on ouvre, comme celui où on est actuellement, où là, les tontes, on va dire, sont plus larges, avec des chemins d'accès, de manière à dire, l'homme peut aussi s'accaparer ces endroits en les respectant, mais en ayant un accès qui n'est pas trop compliqué.
Nous sommes toujours sur Radio Calade dans l'émission d'Alternatiba, alors on change. Nous poursuivons notre émission consacrée ce soir au projet de Port de Plaisance Dense avec à mes côtés en studio Denis Vercher de la LPO du Rhône et Anthony Chan de FNE Rhône. On vient d'entendre Frédéric Pronchéry, maire de Belleville en Beaujolais, qui nous décrit un espace rendu à la nature. Cet espace fait l'objet d'un partenariat avec des associations et des instances départementales. On entend dans ces propos que face à des espaces qui ont déjà été travaillés par l'homme, puisque c'est l'un des arguments de Daniel Pommeret, d'autres choix sont possibles pour limiter la destruction environnementale. Le collectif d'associations que nous formons a sollicité les opérateurs du projet pour proposer des alternatives et nous avons 2 hypothèses. Laisser le site en l'état, en améliorant seulement son fonctionnement, ou créer des aménagements qui redonnent au site une haute valeur environnementale. Denis Vercher, à la place de ce projet de port, que pourrait-on envisager sur le site qui, rappelons-le, a déjà subi de nombreuses transformations ?
Alors, déjà, c'est aux porteurs du projet de proposer des alternatives. Avec des aménagements en faveur de la biodiversité. Aujourd'hui, le constat, c'est qu'il n'y a strictement rien dans le dossier. Alors, si on veut éviter de faire des aménagements, je dirais qu'on a une opportunité incroyable, c'est de restaurer la plaine alluviale, qui est un formidable endroit pour la biodiversité. Et les plaines alluviales, c'est à peu près un quart de la biodiversité terrestre, alors que ça représente à peu près 1% des surfaces, c'est pour dire. Et du coup, on fait un musée à ciel ouvert, tout simplement. Après, si on veut faire des aménagements, je pense qu'on a un exemple à proximité, pas très loin, qui est vraiment très intéressant, c'est le parc de Méribel-Jaunage. Dans le parc de Méribel-Jaunage, il y a des aménagements qui ont été développés pour avoir des sports doux et canalisés, pour avoir des manifestations ludiques et proches de la nature. On y va essentiellement par des modes doux, et on se déplace par des modes doux. Il y a des abris d'observation naturaliste qui ont été implantés, il y a une ferme éducative. Tout ça, c'est des idées pour pouvoir les faire, effectivement, aussi sur le bord de l'An. Il y a des panneaux éducatifs partout. Enfin, nous, on travaille beaucoup dans le parc de Méribel-Jaunage, donc c'est vraiment un endroit merveilleux. Il y a une surveillance permanente de la faune et de la flore. Il y a aussi de nombreux aménagements pour la biodiversité, des falaises à hirondelles, des falaises à guépiers, des radeaux à sternes, des plaines à gravelots, des nichoirs. Enfin, je veux dire, on peut faire tout un tas de choses qui permettent effectivement de faire cohabiter l'être humain avec le vivant, tout simplement, tout en rendant les choses paisibles, agréables et fonctionnelles. Voilà. Alors, je crois aussi que l'idée, c'est aussi de prendre contact avec d'autres organismes. Je crois qu'Alternatiba a pris contact avec le Conservatoire des espaces naturels pour voir effectivement eux pourraient proposer. Voilà, donc enfin, je pense qu'il y a plein d'idées, il y a plein de choses à faire. Vraiment, on peut développer des choses intéressantes, même si l'idée, ça peut rester d'aménager le site et non pas de le laisser évoluer sans rien y faire. Voilà.
Alors, il faut préciser qu'Alternatiba avait pris contact avec la Confédération paysanne pour demander si, comme dans d'autres zones humides, l'agriculture pouvait s'implanter à nouveau, je dirais, puisque à une époque, c'était des prairies de fauche. Mais apparemment, la terre a été tellement travaillée, tellement retournée, tellement peut-être polluée même, que pour un agriculteur, on n'imagine pas vraiment une alternative.
Oui, bah écoutez, moi c'est pas, je sais pas. Après, c'est pas forcément l'idée d'en faire que de l'agriculture non plus. Ça peut être une partie du projet sur certaines zones. Comme à Miribel-Jona, je disais tout à l'heure, il y a une ferme éducative qui organise des stages pour savoir comment faire du compostage, pour savoir comment gérer effectivement l'agriculture bio, hein, tout simplement. Faire que les plantes s'expriment naturellement et s'apportent mutuellement des choses pour pouvoir effectivement apporter aussi un des services écosystémiques importants de la nature qui est de nous nourrir, hein, quand même. Voilà.
Et puis, rappelons-le, on l'a dit tout à l'heure, mais en fait, l'idéal, ce serait d'envisager un projet sur l'ensemble de la zone de Bordelan, c'est-à-dire jusqu'à Villefranche, en comprenant la réexploitation de la gravière qui est actuellement exploitée par Platard, avec un projet de cheminement doux. Alors, les deux mairies se sont déjà entendues sur cette histoire-là, mais il va falloir que nous aussi, on soit à l'initiative de propositions qui englobent toute cette zone de manière à en faire un site exceptionnel de je ne sais pas combien de centaines d'hectares.
Alors, je crois que dans le SCOT du Beaujolais est inscrite justement la mise en place d'un corridor écologique entre le Bordelan et Villefranche. Et aujourd'hui, c'est pas très clair effectivement comment ils vont mettre ça en œuvre par l'intermédiaire du projet, quoi.
Alors, on va justement vous donner un exemple de ce que peut être une valorisation d'un espace naturel. C'était lors d'une animation du CEN, le Conservatoire des espaces naturels Rhône-Alpes, l'antenne de l'Ain. Et c'était dans le Marais de Boitrey à Saint-Georges-de-Renins lors de la Journée mondiale des zones humides.
Maintenant, on va parler de la valorisation. Le but, ça va être de mettre en valeur le site. Donc pour ça, on réalise des animations nature. Il y a une autre chose qui est faite sur le site, c'est la mise en place d'une ATE. Alors une ATE, c'est une aire terrestre éducative. Donc l'objectif de cette ATE, ça va être de céder une partie du site aux enfants d'une école primaire ou les collèges pour qu'ils puissent avoir un espace dans un site SEN à eux. Donc là, l'ATE, c'est tout ce qui est devant nous, donc jusqu'aux arbres là-bas, qui est en fait géré par 27 élèves de CM2. Et donc l'instituteur Franck les accompagne tout au long du projet. Donc c'est des enfants qui vont venir réaliser des petits inventaires de biodiversité. C'est des enfants qui vont venir installer, cette année le projet c'est d'installer des hôtels à insectes. Donc vendredi dernier, ils sont venus repérer sur le site où est-ce qu'ils pourraient poser leurs hôtels à insectes, quel serait l'endroit le plus favorable. Et ils en ont discuté avec l'agriculteur qui est venu vendredi dernier, j'y étais aussi. Et en fait, on s'est mis d'accord tous les trois, donc le CEN, l'agriculteur et les membres de l'ATE, pour définir trois endroits où on allait potentiellement placer des hôtels à insectes. Voilà, donc c'est des enfants en fait qui vont être reconnectés à la nature. Ça va favoriser le dialogue entre les acteurs du territoire et les enfants. Et le but, ça va être de les sensibiliser de façon concrète, en fait, à la préservation de la biodiversité.
Calade
100.9. Nous sommes toujours sur Radio Calade dans l'émission d'Alternatiba. Alors on change. Rappelons maintenant les étapes à venir au cours desquelles le collectif Non aux ports de Bordelan sera mobilisé. La concertation, dont Anthony Chan nous a parlé, qui devrait se dérouler au mois de juin et où vous pouvez vous exprimer. Le Tour Alternatiba qui aura lieu les 10 et 11 septembre avec une étape à Villefranche et qui proposera probablement une action sur le site Danse, mais nous vous en reparlerons. Et enfin, l'enquête publique, que moi j'avais située fin d'année 2024, mais Anthony, vous avez dit que ce serait plutôt début 2025, et où chacun peut s'exprimer également. Entre-temps, nous informerons le public et la presse, mais si vous voulez ne rater aucune information, vous pouvez nous envoyer un message à collectifbordelan@gmail.com. collectifbordelan@gmail.com pour être intégré sur notre liste de diffusion. Merci beaucoup à nos deux invités, Denis Verchère de la LPO et Anthony Chan de FNE. Et tout de suite, en studio à mes côtés, Bernard et la chronique Calade Verte.
Merci Monique et bonsoir à toutes et à tous. Depuis plus de 30 ans, voulant marquer l'histoire, le maire de la ville d'Anse, nous prenant pour des poires, rêve d'un port fluvial en bordure de Saône. Il poursuit son idée sans consulter personne, sauf bien sûr ses amis, élus de la région, car pour les coups tordus dans le coin, ils sont légion. Soulignons toutefois, ça fait plaisir à dire, que la métropole de Lyon refusa de souscrire à ce qu'il faut bien nommer un projet délétère quand on a le souci de préserver la terre. Or donc, notre cher élu, en proie à ses chimères, mobilise ses services et tous ses partenaires. Il diligente enquêtes, rapports de toutes sortes, cherchant tous les sésames ouvrant en grand les portes à son méga projet, offrant à la plaisance le plus grand port fluvial qu'on trouvera en France, car il parle bien de plaisance et pas de fret fluvial, ce qui pour la ville d'Anse aurait été trivial. On n'est pas à Strasbourg ou à Gennevilliers, on est dans le Beaujolais, il ne faut pas atermoyer. Attirer le touriste, c'est ça son objectif, il faut faire du prestigieux, du beau, du lucratif. Alors, il faut être clair, la question principale, celle qui fait débat, vraiment fondamentale, est celle de savoir la plaisance pourquoi, et puis aussi pour qui. Et peut-on rester quoi face aux enjeux actuels? Est-ce bien raisonnable de laisser l'utile pour garder l'agréable? Est-ce bien raisonnable de rester hermétique aux alertes répétées des experts climatiques? Ou d'être comme par hasard frappé de cécité lorsque l'air, l'eau, les sols, la biodiversité rappellent chaque jour que notre sacrée croissance nous pousse fatalement vers la dégénérescence? Car qui, en fin de compte, en paierait le prix fort? Ça va être bien sûr la faune et puis la flore. Tritons, castors, hérissons, chiroptères, euphorbes des marais, gracioles, fritillaires, partenaires majeurs de notre biosphère, vont-ils être détruits par la vague meurtrière des engins de chantier, tracteurs et pelleteuses, œuvrant sans état d'âme à leur tâche hideuse? Ne mérite-t-il pas qu'on fasse une vraie pause, montrant qu'une fois pour toutes, on peut remettre en cause cette course effrénée au profit, au rentable, et travailler enfin à ce qui est supportable? Avoir un vrai projet respectant la nature, épargner le vivant, assurer le futur, s'extraire de la spirale de la domination pour travailler enfin dans la coopération. Le port du Bordelan, c'est ainsi qu'il se nomme, au JO de l'absurde, monte sur tous les podiums et au classement local des projets inutiles, il est en bonne place. Il brille, il rutile. Il faut dire que chez nous, il y a de la concurrence. Elle est même très rude, comme partout en France. Les dinos de Trévoux, le parking du Promenoir, le collège Jacques Chirac, c'est pas de l'accessoire. Ça, c'est vraiment du lourd, mesdames et messieurs. Nos décideurs locaux, ce sont des ambitieux. Aveuglés par le mirage de la postérité, ils ne reculent devant aucune absurdité. Roitelés de pacotille, tyrannos dérisoires, comme il est dit le plus haut, ils nous prennent pour des poires. Bon, allez, après tout, on va être beaux joueurs. Nous sommes des humanistes, mais pas des aboyeurs. Alors, on leur dédie cette petite fable express, un tout peu cliquant d'œil à leur triste business. Fable express! Si vous pensiez qu'à Anse, il n'y a pas de quoi se marrer, vous trouverez quand même de quoi vous amarrer. Comment? 500 anneaux dans un port de plaisance, c'est le grand panard, le pied, que dis-je, c'est Byzance. Grand merci donc à leurs instigateurs géniaux, qui méritent bien le titre de « Seigneur des anneaux ». L'histoire n'est pas finie, il y a encore du boulot pour ce que projet foireux tombe finalement à l'eau. Alors, pour se mettre en voie, exerçons-nous ensemble et crions ce slogan afin que les murs en tremblent. Ce port fluvial On n'en veut pas. Le Bordelan, c'est la nature. Arrêtez donc cette aventure, ce port fluvial. On n'en veut pas. Le Bordelan, c'est la nature. Arrêtez donc cette aventure.
Merci Bernard pour cette brillante chronique. Calade verte, je termine cette émission avec quelques rendez-vous en Calade ou pas loin. Le samedi 25 mai, de 10h à 18h, Alternativa tiendra un stand à la fête des associations Place des Arts à Villefranche. N'hésitez pas à venir nous y rencontrer. Le jeudi 30 mai à Villefranche, première réunion publique du CERN, Coordination Santé Environnement Rhône-Nord, un collectif dont Alternativa fait partie. Les objectifs de la réunion sont de faire connaître la coordination, sensibiliser aux pollutions sur ces territoires et à leurs impacts sur la santé, et mobiliser de nouvelles forces. Merci à toute l'équipe de Radio Alternativa. Ce soir, le sujet a été préparé par Bernard et moi. Pierre était en studio à la technique, assisté de Gaël. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission au cours de laquelle nous parlerons du scénario Négawatt. D'ici là, vous pouvez écouter cette émission sur le site de Radio Calade et nous laisser des messages sur les réseaux sociaux. Très bonne semaine à toutes et à tous.
Alors, d'après la carte, la rive la plus à l'ouest du lac du Colombier est concernée par la zone du chantier. Alors, comment elle sera aménagée ou comment elle va évoluer, on n'en sait rien encore. Mais la limite du chantier, elle comprend la presqu'île et donc la rive qui est à l'ouest. Et c'est sur cette rive-là, la rive qui est à l'ouest ici, il y a des espèces intéressantes. Et de l'autre côté de la presqu'île, il y a une orchidée qui est relativement rare, qui pousse au printemps. Et sur cette presqu'île, on a relevé des traces de la présence du castor il y a un an. Donc, alors le castor, il est occasionnel. Il n'est pas toujours là, mais il est de plus en plus présent. Il y a 10 ans, on n'en parlait pas ici, et depuis à peu près quelques années, périodiquement, régulièrement, on voit des traces d'émondage et d'écorçage sur les saules. Donc, et là, il y avait une entrée, je ne sais pas s'il n'y avait pas une cahute de castor. Donc cette partie-là serait impactée aussi. Donc voilà, la rive ici, jusqu'à à peu près 50 ou 100 mètres, mettons 100 mètres, à partir du sud du lac de Colombier, donc vers l'ouest.
Alors on change, qu'est-ce qu'on attend? On n'a pas de terre de rechange, on n'a plus le temps de faire semblant. Alors on se lance, on laisse plus faire. On n'aura pas de deuxième chance, pas de plan B, pas d'autre terre.
Calade,
ma radio.